Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débrief.
Et à 8h38, on est avec Raphaël Bloch, le cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well, François Chollet, directeur général de Montségur Finance, et Emmanuel Le Chip, qu'on ne présente plus. Merci à tous les trois d'être là pour débriefer. On va parler déjà de l'état des marchés financiers, le yo-yo des marchés financiers, la bourse plus 4% hier à Paris, à New York, alors que la crise est là et que la récession est quasiment au bout du tunnel. Vous avez compris ce qui se passe, Emmanuel Le Chip ?
Les enfants.
Des enfants.
Non, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui... Mais il n'y a pas que les gens de marché, d'ailleurs. Les banquiers centraux, les investisseurs, les analystes, etc. Personne n'a vu jusqu'à maintenant ce que c'était que l'inflation depuis qu'ils travaillent. Donc voilà, donc vous avez des tas de gens sur les marchés qui faisaient les beaux pendant des années avec des taux à zéro, ça roulait des mécaniques et ça se prenait pour les rois du monde. Et puis à la moindre petite hausse des taux venue et à la moindre petite bouffée d'inflation venue, c'est la panique à bord. Voilà, plus personne, en fait, ne sait comment se comporter vis-à-vis de l'inflation, et y compris les banquiers centraux, qui ont quand même une approche d'une rusticité, mais invraisemblable. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être revenu 40 ans en arrière. En fait, tous les progrès intellectuels que les banques centrales ont fait pendant les 30 années de déflation qu'on a connues, ben voilà, maintenant il faut refaire le même effort d'innovation en matière de politique monétaire, en matière de discours sur la politique monétaire qu'on a fait. Et là, on se retrouve avec des banquiers centraux qui ont des discours ridicules sur les cercles, les spirales inflationnistes, les spirales prix-salaire, etc., alors qu'on a une succession de choc à encaisser, et c'est ce qu'on disait déjà en début de semaine. Penser que les taux vont monter jusqu'à encore de 2-3 points, etc.
Vous n'y croyez pas.
C'était totalement délirant, puisque vous voyez bien qu'en début de semaine, on a déjà vu les marchés quand même être secoués par les hausses de taux qu'on avait vues. Regardez l'affaire Crédit Suisse, regardez la hausse de la volatilité, etc. Donc, moi, il me semble que on va revenir à une notion plus raisonnable, qui est la notion de stabilité financière au sens large, dont l'inflation fait partie, mais n'est pas le seul paramètre, et que, du coup, on n'aura pas, effectivement, les hausses de taux qu'on avait anticipées. C'est ce qu'ont réalisé hier les marchés, et c'est ce qui a semblé les réjouir.
Mais... Ils ont eu raison, du coup, là, pour le coup, d'être un peu plus optimiste, parce que ça peut peut-être s'arrêter, ce délire monétaire, ce que vous dites.
Bah, moi, je pense que le risque, comme toujours, c'est que la crise vienne d'une erreur de politique monétaire.
François Chollet, hier, finalement, ils ont eu une bonne interprétation de la situation.
Il y va fort, Emmanuel, ce matin. Donc, personne n'a connu cette période. Donc, il faut être clair. Moi, j'ai commencé en 94, il y a eu une remontée des taux.
Voilà.
Il y a déjà un impact sur les marchés incroyable. Mais ce qu'on vit là, il faut avoir 75 ans de marché. Il n'y a pas grand monde qui les a. Donc, on n'a pas connu ça jamais. Qu'est-ce qui fait le soulagement qu'on a là? Effectivement, on n'a pas trouvé un vaccin contre la guerre. Malheureusement, j'aurais bien aimé. C'est simplement qu'à un moment donné, on a le sentiment que les banquiers centraux sont sur le point de réussir. Mmh. Pourquoi ? Parce que les anticipations d'inflation se détendent et reviennent à quelque chose de raisonnable, notamment aux États-Unis. Et donc ça détend un peu l'atmosphère. Et on a atteint, d'un point de vue technique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde, on a atteint les 4% sur le 10 ans américain. Le signal qui avait été donné par la Fed, c'était des taux qui montraient jusqu'à 4,5% à peu près au premier trimestre 2023. Et donc durablement, 4%, c'était quand même une vraie cible. De même que sur les marchés européens, on est revenu sur des supports qui ont été plutôt tenus. Et donc, vous avez un effet aussi technique qui a été très fort. Mmh. La baisse des taux lundi sur le 10 ans américain, elle est historique. Sur les 10 ans européens également.
Et la question, François, c'est est-ce qu'on ressort de cette période avec une confiance affaiblie ou accrue dans l'action des banques centrales ?
Pour l'instant, on est dans un rallye de bear market. On est dans un soulagement simplement par rapport à une pression qui était sur les marchés, qui était inouïe. On a eu une hausse absolument continue des taux d'intérêt à 10 ans partout.
Alors, Raphaël Bloch, il n'a même pas connu la crise de 2008, il n'était pas né. Comment, Raphaël, vous voyez effectivement ce retournement des marchés?
Non, effectivement, je pense que Emmanuel a soulevé un vrai point, c'est qu'on est en train de chercher un équilibre, mais en intégrant une variante finalement qu'on n'avait plus connue depuis 40 ans, à savoir l'inflation. Et effectivement, les banques centrales ont commencé donc à relever les taux, ça a eu un fort impact sur les marchés. Hier, la Banque centrale d'Australie a quand même relevé ses taux, mais moins fortement que prévu,
ouais.
Ce qui peut aussi effectivement donner le sentiment que les banques centrales vont davantage tenir compte de l'impact sur l'économie du relèvement des taux et que peut-être dans les mois qui viennent, elles vont y aller moins fort que ce qu'on pouvait.
Mais est-ce qu'on a l'impression qu'elles ont réussi ? On parle de confiance, mais aussi d'action réussie.
Rappel.
Alors, Moi, à titre personnel, je ne pense pas qu'elles aient réussi leur pari actuellement, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas capables, à 6 mois ou 1 an, de savoir précisément dans quelle direction elles vont aller. Est-ce qu'elles vont davantage remonter les taux ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils expliquent qu'ils vont le faire pour lutter contre l'inflation. Et en même temps, on sent bien qu'au moindre frémissement, ils sont capables d'infléchir leur discours en expliquant que finalement, on ne va peut-être pas y aller aussi fortement que ce qu'on avait annoncé. Donc je pense qu'en réalité, ça va mettre du temps. Il va falloir intégrer l'inflation dans leur réflexion.
C'est amusant d'entendre la différence de nuance entre vous deux, parce que François Chollet a tellement envie de croire que la mission des banques centrales est réussie et que les taux vont arrêter de monter, que vous dites que vous avez l'impression qu'hier, les marchés ont bien fait de se ressaisir. Parce qu'on
voit certain que les taux vont continuer de monter. Les taux directeurs, c'est pas la question. Enfin, on n'est pas à remettre en cause ce qui a été annoncé par les banques centrales. On est simplement à dire que pour l'instant, les anticipations, c'est ce qui guide les taux à long terme.
Bien sûr.
Les taux à long terme qui guident l'économie, c'est pas les taux directeurs, on est bien d'accord là-dessus. On se finance pas à 3 ans, on se finance à 10 ans. Donc c'est les taux à long terme qui vont changer les comportements des investisseurs. Et ces taux à long terme ont marqué une première pause. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est un soulagement. Imaginez, ça fait des mois et des mois qu'on regarde un krach obligataire historique qu'on n'a jamais vu, et ça a pesé sur les institutions. Et c'est vrai qu'on a eu des fonds de pension en Angleterre qui ont commencé à tirer des sonnettes d'alarme. Mmh. On a les sonnettes d'alarme qui commencent à s'allumer avec un peu de fumée quand même sur les CDS bancaires.
Le Crédit Suisse.
C'est Crédit Suisse.
Ah, oui.
Donc on avait, et on se dit, c'est pas possible de tels mouvements de marché qu'il n'y ait pas à un moment donné, quelque part dans une salle de marché, un risque qui puisse émerger. On a tellement vu ça par le passé qu'on a toujours cette crainte. Donc quand ça reflue dans l'autre sens et qu'on a ce sentiment de soulagement, eh bien, le marché a des réactions très violentes. La hausse de plus de 4% hier, c'est une hausse très violente. La dernière hausse qu'on a connue comme ça de mémoire, c'est effectivement le jour où l'annonce du vaccin sur le Covid, où un marché qui s'est emballé de manière considérable. Mais deux magnifiques séances. Lundi, cette ouverture en forte baisse et cette remontée tout au long de la journée de lundi. Et puis mardi, une explosion magnifique. C'est quand même deux séances d'une semaine de bourse extraordinaire.
Un dossier pour animer les marchés américains cet après-midi. Twitter, Elon Musk revient à la charge. Finalement, il a envoyé une lettre pour dire qu'il voulait racheter toujours au même prix, Raphaël Bloch, 44 milliards. Ouais. C'est quand même très très cher désormais maintenant, alors, au vu de l'effondrement notamment du Nasdaq.
Effectivement, c'est que si on revient en arrière et au mois d'avril où finalement le deal avait été annoncé, enfin du moins c'était le début des négociations, c'est vrai que vu la baisse des marchés, ça peut paraître être un mauvais deal. Après, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que Elon Musk a une vision pour Twitter. Il l'a d'ailleurs tweeté hier soir en expliquant qu'il voulait créer une sorte de super app. Alors après, on va voir ce qu'il veut mettre dedans. Au printemps, il avait expliqué que notamment il voulait tester des choses sur le paiement. Il veut aussi également reprendre en fait tout le fonctionnement de Twitter qu'il avait jugé être pollué par un nombre de bots, donc en fait des faux comptes incalculables.
Il n'a pas pu prouver.
Non, il n'a pas pu prouver. Et c'est justement peut-être cette raison qui le pousse aujourd'hui à racheter Twitter, parce qu'on sait que le procès, je crois, doit s'ouvrir le 17 octobre dans le Delaware. Et effectivement, Elon Musk ne pourra pas en fait prouver que Twitter n'a pas respecté son engagement, notamment sur la lisibilité du nombre d'abonnés, des indicateurs très importants.
Il était un peu collé, quoi. Il pouvait pas vraiment faire autrement. Mais quand même, Raphaël, c'est pas sa spécialité. Les réseaux sociaux, vous dites qu'il va en faire une super app avec moyen de paiement, etc. C'est un nouveau métier pour lui. Il a déjà construit des voitures, il lance des fusées, il fait des robots.
C'était pas non plus ses métiers au départ.
Hein. Ouais. Non,
ni la voiture, ni les fusées, ni les robots.
Donc vous votez Musk.
Bah. Moi, je pense qu'il, si c'est comme sur tous les autres sujets, c'est-à-dire qu'il arrive avec une vision disruptive des nouveaux projets, etc. Oui, je pense pas qu'il faille disqualifier son projet. Effectivement, le fait qu'il ait utilisé cet argument un peu fallacieux des faux comptes, peut-être pour faire baisser les prix. Bon, maintenant, il se rend compte que c'était exagéré parce qu'il y avait effectivement aucune preuve qu'il avait raison. C'est pas. Et puis, je pense pas en fait qu'il soit si près de ses sous que ça, donc je pense que
il n'est pas à 15 milliards près, c'est beaucoup quand même.
Non, mais
il y a une question de crédibilité quand même au bout d'un moment. Hein,
alors oui, est-ce qu'il se fait pigeonner ou pas, mais
ah oui, c'est un sujet quand même.
Oui, c'est un peu le meilleur client du restaurant qui rachète le restaurant parce qu'il va y manger tous les jours, parce qu'on peut se tromper. Twitter, pour Elon Musk, c'est quand même là où il a fait aussi une partie de sa fortune. C'est là où il communique sur sa société, c'est là où il communique sur les cryptos, c'est là où il a quand même pas mal manipulé, on peut le dire, les marchés financiers depuis de nombreuses années. Donc ça lui a bien payé peut-être l'acquisition de Twitter.
Oui, c'est vrai, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer et considérer que ce deal est anecdotique. Aujourd'hui, vous avez des géants sur les réseaux sociaux, on pense à des Facebook et de l'autre côté des géants chinois, et Twitter est tu as à la fois un réseau social qui a une communauté suffisamment grande aujourd'hui, mais qui en même temps est beaucoup plus agile, parce qu'on parle de 300 millions d'utilisateurs. Vous avez finalement un setup qui est relativement simple, pas aussi complexe que ce que vous avez chez Facebook. Et donc, s'il arrive à introduire des nouveautés comme du paiement, potentiellement des comptes presque bancaires, on peut imaginer que demain, on puisse stocker de l'argent sur Twitter, il va falloir, je pense, suivre ça parce qu'il l'a déjà montré, il aime bien innover.
J'aimerais vous faire commenter un chiffre qui vient de tomber. La production industrielle en France au mois d'août. On attendait 0%. Finalement, c'est plus 2,4%. Alors, Emmanuel, est-ce que c'est un bon chiffre? Parce que ça veut dire que, quand même, ça tient. Ou est-ce que c'est un mauvais chiffre? Parce que ça veut dire que la machine n'est pas assez refroidie, qu'il va falloir encore augmenter les taux après tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure.
Non, c'est un bon chiffre. Ça montre que les entreprises, elles ont des clients.
Ouais.
Elles ont des commandes à honorer, donc elles ont besoin de travailler. Il y a quand même eu, à cause de tout, toutes les perturbations de chaînes de production, de difficultés d'approvisionnement, des retards accumulés dans les livraisons, dans la production, etc. Donc, il a fallu effectivement profiter du mois d'août, sans doute, pour produire davantage et en faire un mois d'août supérieur en termes d'activité au mois d'août traditionnel. Ce qui fait que si vous rajoutez un petit peu de correction des variations saisonnières là-dedans, vous voyez, ça vous fait un bon mois d'août. Ouais.
Bon, François,
c'est un très bon chiffre. Il faut bien voir que le premier rallye des marchés qu'on a eu cet été, il était lié aux publications des entreprises.
Ah,
c'est
oui.
bien la connexion vers l'économie réelle qui nous a permis de faire la hausse qu'on a connue durant l'été sur les marchés européens. Si on se reprolonge sur la fin d'année, c'est clair qu'on va avoir sur les publications du troisième trimestre des choses qui vont être plutôt rassurantes.
Ah, oui.
Le marché, il a entre 6 mois et 1 an d'avance sur l'économie. Et aujourd'hui, on s'inquiète non pas de 2022,
bah oui, 2023.
On s'inquiète bien de ce premier, deuxième
François,
trimestre
y a
2023.
Quand même, moi, ce que je vais surveiller très près, c'est quand même les résultats des banques. Parce qu'à travers les résultats des banques, on va voir effectivement si toutes les inquiétudes qu'on a sur la situation financière des entreprises,
ah oui,
etc.
Mais si tu regardes le deuxième trimestre, les provisions étaient extrêmement basses, quasiment à un niveau record. En bas.
Après, quand vous parlez aux chefs d'entreprise d'aujourd'hui, notamment des grands groupes, ils vous disent, nous, on a une année 2023, on est sur des prévisions incroyablement optimistes. On va encore exploser
oui, mais
nos ventes.
Que là, vous avez une déconnexion entre les préoccupations des grands groupes et celles des entreprises de taille plus petite, qui sont quand même déconnexions totales. Les patrons de PME aujourd'hui...
François Asselin nous l'a dit, là, 150 000 entreprises pourraient s'arrêter dans les prochaines semaines.
Parce que y a plusieurs murs quand même qui sont devant les entreprises qui sont plus implantées sur le territoire national, quand vous mettez bout à bout. Alors, il y a les taux qui sont importants, les marchés, mettez toutes les problématiques énergétiques, les revendications sociales au moment où la situation financière des PME se dégrade, parce que quand vous regardez l'enquête faite par BPI auprès des PME, deux fois plus d'entreprises qui pensent qu'elles ne seront pas capables de rembourser leur PGE, etc. On a quand même une fin d'année qui va être extrêmement tendue, et sur les factures d'énergie, il va bien falloir trouver une solution, parce qu'aucune entreprise n'est capable de surmonter une facture d'énergie qui fait x10.
Alors ils sont en train de se réunir en ce moment à Bercy, justement avec les énergéticiens pour voir s'il n'y a pas des solutions pour pas les PME, parce que les moins de 1 million de chiffre d'affaires elles bénéficient du bouclier tarifaire, mais au-delà, effectivement, c'est un peu la zone grise, la zone noire de l'économie, parce que sur les grands groupes, encore une fois, ils sont très optimistes sur 2023.
Mais
bizarrement.
Les grands groupes, ce sont des porte-avions qui naviguent très loin des eaux nationales, qui nous renvoient de l'argent, mais qui en fait
avec un marché américain par exemple qui est en plein boom.
Naviguent en dollars. L'effet dollar sur les résultats des entreprises en 2022 va être un effet extrêmement soutien très fort des publications de résultats qu'on va avoir.
Raphaël.
Non, mais effectivement, moi j'allais parler de l'effet dollar pour des entreprises qui sont très présentes à l'étranger, ça n'est pas négligeable et effectivement c'est un sujet qui commence à monter. D'ailleurs, comment les entreprises, enfin certaines du moins, ont utilisé le dollar pour renforcer leur trésorerie.
Dernier dossier de la journée, dernière actualité aujourd'hui, c'est la réforme des retraites qui va s'ouvrir. Discussion avec Olivier Dussopt tout à l'heure. Alors discussion, je crois
Emmanuel
que le mot est un petit peu gros. Je ne sais plus comment dire. Si c'est alors concertation, c'est un peu faible. Discussion,
c'est
ça va pas. Négociation, ça va pas non plus. Qu'est-ce que c'est quoi?
Ben je sais pas. Ça fait 30 ans que ça dure.
Réunion.
On discute. Drôle.
Réunion peut-être.
On sait très bien ce que dit
Acteur
chacun.
Studio.
On sait très bien que le président de la République veut un allongement de l'âge de départ et que tous les autres syndicats vous disent il en est hors de question, on cotisera pas plus et on partira pas plus tard en retraite. On avait un espoir avec Laurent Berger de la CFDT, sauf que il est muselé par ses contraintes internes qui font que il n'a pas le droit finalement tout seul de décider quoi que ce soit sur l'âge de départ ou sur la durée de cotisation, tant que c'est des discussions qui ne vont servir à rien une fois de plus.
Alors on était quand même avec le monsieur retraite de la CFDT tout à l'heure qui nous disait nous on est prêt, enfin à demi-mot, à dire oui sur l'accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire peut-être que l'augmentation du nombre de trimestres nécessaires aille plus vite que prévu par la loi. Donc c'est une petite avancée quand même. Mais Macron, ça suffit pas.
C'est pas ce qu'on peut appeler une réforme des retraites. Ajuster un petit paramètre.
Si ça suffit pour l'équilibre. Il nous dit les retraites, c'est 3% de déficit.
Mais alors on va pas prendre le risque d'arrêter la France entière pendant des semaines juste pour accélérer d'un an. Enfin, je veux dire pour faire passer de 3 ans à 2 ans l'augmentation d'un trimestre.
Et donc vous dites quoi?
Non, mais je dis qu'il faut qu'il la fasse. S'il veut faire sa réforme à 64 ou 65 ans, et ben il arrête de discuter, il l'a fait, et puis il va au bras de fer, et voilà.
Un mot, rappel ou François.
Ce qui a été rappelé, c'est peut-être toutes les solutions en dehors d'augmentation de l'âge de départ. C'est l'âge de départ moyen, la retraite réelle.
Mais il ne veut pas ça, Macron. Macron, il veut un symbole.
J'ai entendu.
Il veut 64, il veut 65 ans.
Non mais là pour le coup, pour rebondir sur votre blague sur la crise financière, moi c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 10-15 ans que j'entends à peu près la même chose sur la réforme des retraites. Et effectivement, bon, on va voir ce qui va sortir de cette reconcertation, nouvelle concertation ce matin. Mais effectivement, moi ce que je note, c'est le peu de lisibilité qu'on a sur le calendrier et sur finalement ce que vous pouvez actionner pour réformer les retraites.
Ce qui est intéressant, c'est que les gens de votre génération nous disent tous les patrons de start-up qu'on a, nous disent tous, mais en fait, on ne se sent pas du tout concerné parce que de toute façon, on sait déjà qu'on n'aura pas de retraite par répartition.
On écoutera la dernière réforme, peut-être.
Ouais. C'est un débat de vieux, ça, non ?
Je ne sais pas si c'est un débat de vieux. Non, mais pour le coup, je pense que c'est un vrai débat de société qui devrait nous permettre de discuter de ce sujet au-delà des générations. Mais ce que je vous dis, c'est que j'ai l'impression que ça fait 15 ans, voire 20 ans, effectivement, qu'on a les mêmes débats et qu'on n'avance pas tant que ça en parlant toujours du nombre d'années de cotisation ou alors du recul de l'âge de départ à la retraite. Et effectivement,
ça s'appelle de la politique, malheureusement. Bon, merci beaucoup, Raphaël Bloch, François Chollet, Emmanuel Le Chypre.